le temps d'une chanson. Un mardi par mois, à 22h, sur Radio Campus Paris.
Septième numéro du temps d'une chanson. Les chansons nous ressemblent, elles marquent nos vies et accompagnent la grande histoire. Lors de la dernière émission, nous avons terminé par l'année 1963. Une année 1963 marquée par l'arrivée des grandes surfaces. Grandes surfaces, nouveau mode de consommation qui nous venait tout droit des États-Unis. Le 25 juin 1963, Bourvil enregistre La Tendresse avec l'orchestre de Jerry Mango, chanson écrite par Noël Roux, composée par Hubert Giraud.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire, qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire, et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment. Ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire. Mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long. Long, 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 le temps vous paraît long. Dans le feu de la jeunesse naissent les plaisirs. Et l'amour fait des prouesses pour nous éblouir. Oui, mais sans la tendresse, l'amour ne serait rien. Non, 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 l'amour ne serait rien. Quand la vie impitoyable vous tombe dessus, qu'on n'est plus qu'un pauvre diable broyé et déçu, alors sans la tendresse d'un cœur qui nous soutient, non, 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 on n'irait pas plus loin. Un enfant nous embrasse parce qu'on le rend heureux. Tous nos chagrins s'effacent, on a les larmes aux yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dans votre immense sagesse, immense ferveur, faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs des torrents de tendresse pour que règne l'amour, règne l'amour jusqu'à la fin des jours.
La tendresse est une chanson française dont le texte a été écrit par Noël Roux et la musique composée par Hubert Giraud. Bourvil l'a interprétée en 1963 et Marie Laforêt l'a reprise l'année suivante. Le compositeur a coédité l'œuvre avec les éditions Semi. Ce titre a fait l'objet de nombreuses reprises et interprétations. Particulièrement émouvante, la musique, au rythme à trois temps, évoque une valse que le mode mineur imprègne de nostalgie. Cette chanson est reprise dès 1964 par Maurice Chevalier, ainsi que dans l'album « Viens sur la montagne » de Marie Laforêt. Elle figure dans la compilation « Tendre Bourville » sortie en 1973. La chanson a aussi été interprétée par de nombreux artistes, dont Morane, Mouloudji, Jean Lefebvre, Zaz et Jennifer pour Les Enfoirés. Il existe aussi une version en yiddish avec un couplet en français par le groupe Les Yeux Noirs sous le titre Liebkeit, la tendresse, sur l'album Balamouk. Ce titre est à distinguer bien sûr de la chanson intitulée La tendresse, interprétée en 1973 par Daniel Guichard, dont texte et musique diffèrent. En mars 2020, à l'initiative du guitariste Valentin Vander, 45 musiciens et chanteurs reprennent depuis leur lieu de confinement La tendresse sous la forme d'une symphonie confinée en soutien aux victimes de la pandémie de Covid-19. Interprétation diffusée le 29 mars 2020. En 2020, la chanson est reprise par Margot Joubert dans le cadre d'une publicité. En mai 2021, l'artiste italien Stefano Moro, Pepe Moro, propose une réécriture de la chanson en italien. En mai 2022, le chanteur Renaud reprend cette chanson à l'occasion de son album de reprise Metek.
Rouge Père Épaisse.
Février 1934. Manifestation des chauffeurs de taxi parisiens contre le règlement de Rouvier et Valeski. Grève des taxis parisiens pendant 32 jours. Victoire des 25 000 chauffeurs. Le préfet de police de Paris, Jean Quiap, soupçonné de sympathie pour les ligues monarchistes, est destitué. Le 6 février, c'est la crise du 6 février 1934. Les nombreuses manifestations organisées par les ligues d'extrême droite, Union nationale des combattants, Croix de feu, Action française, Camelot du Roi, Solidarité française, Jeunesse patriote, dégénèrent en émeutes violentes contre le gouvernement. Les gendarmes mobiles, qui gardent le pont de la Concorde, repoussent les émeutiers qui tentent de prendre d'assaut le palais Bourbon. La police tire sur la foule. Les affrontements avec les forces de l'ordre se poursuivent jusqu'au soir et font 16 morts et 328 blessés hospitalisés sur la place de la Concorde à Paris. Débat houleux à la Chambre à la suite des violentes émeutes de la veille, le président du Conseil, Édouard Daladier, jette l'éponge et remet sa démission au président de la République, Albert Lebrun. Quatre cent manifestations sont organisées par les communistes dans 356 villes en France. Le président Lebrun nomme l'ancien président de la République Gaston Doumergue à la présidence du Conseil. Il forme un gouvernement d'union nationale qui rassemble les radicaux Édouard Herriot et la droite, André Tardieu et Louis Marin, mais exclut socialistes et communistes. Une manifestation est organisée par le Parti communiste français, Place de la République. La répression fait 9 morts parmi les manifestants. Grève générale et manifestations antifascistes, à l'appel des syndicats et des partis de gauche, des manifestations unitaires contre le fascisme et pour la défense de la République sont organisées à Paris, de la Place de la Nation à la Porte de Vincennes. Le 16 février, c'est la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Stavisky. Le 20 février 1934, c'est la découverte du corps décapité du conseiller Albert Prince le long d'une voie ferrée à la Combe aux Fées près de Dijon. Chef de la section financière du parquet de Paris, il avait enquêté sur Alexandre Stavisky. Les circonstances de sa mort, suicide ou assassinat, ne sont toujours pas élucidées.
C'est l'émeute place de la Concorde. Ce 6 février 1934, 15 à 20 000 manifestants se heurtent aux gardes mobiles. On brûle des autobus, On lance des fumigènes. Des coups de feu sont même tirés. L'objectif est de pénétrer dans l'Assemblée nationale pour renverser le gouvernement de centre-gauche. Ce jour-là se déroule la manifestation la plus violente en France depuis la Commune de Paris en 1871. Mais qui sont ces émeutiers? Pourquoi une telle violence? Depuis des mois, la France est frappée par la crise économique. Les usines ferment, les files s'allongent devant les soupes populaires. En janvier, éclate l'affaire Stavisky, du nom d'un escroc français, d'origine juive ukrainienne. Des parlementaires, des ministres sont impliqués, c'est la crise politique. L'extrême droite se déchaîne.
À Paris, les étudiants en médecine font une grève de protestation contre le trop grand nombre d'étrangers admis à exercer en France.
Les royalistes de l'Action française, des groupes plus ou moins inspirés du fascisme italien, mais surtout les grandes associations d'anciens combattants de la guerre de 14 se mobilisent contre le gouvernement. Ce sont eux qui appellent à manifester ce 6 février devant l'Assemblée, tous prêts à en découdre.
Ce ne sont pas des enfants de cœur. Les groupes qui arrivent là sont des groupes organisés qui sont arrivés pour certains armés avec des revolvers, avec des rasoirs pour couper les jarrets des chevaux de la garde républicaine, avec des différents moyens pour affronter véritablement les forces de l'ordre.
Ces affrontements font près de 1500 blessés et 15 personnes y laissent la vie. Mais aucun émeutier ne pénètre dans l'Assemblée, la République est sauvée. Notamment grâce à l'un des organisateurs de la manifestation. C'est cet homme, le colonel Delaroque, le chef des Croix de Feu. Un grand mouvement d'anciens combattants, 140 000 membres en 1934. Malgré leur allure martiale pourtant et leur culte du chef, la majorité de ces hommes restent républicains. Il ne faut pas s'y méprendre. Nationalistes, conservateurs, anticommunistes, certes, mais pas putschistes, les Croix de Feu. En témoigne le petit-fils du colonel.
2000 Croix de Feu approchent de l'Assemblée nationale. Et donc, la question se pose, dans un climat de tension extrême, face à l'ultime barrage de gardes mobiles, allons-nous forcer les portes du Palais Bourbon? La question, en réalité, ne se pose pas, puisque mon grand-père, deux jours auparavant, a réuni ses cadres Croix de Feu et leur a dit très précisément, nous serons des manifestants, nous ne serons pas des émeutiers.
Trois jours après ces émeutes, en réaction, la gauche unie manifestera à son tour et deux ans plus tard, le Front populaire accédera au pouvoir.
Adieu Venise provençale est une chanson interprétée par Alibert, extraite de l'opérette Arène joyeuse. Les paroles sont d'Henri Alibert et de René Sarville, la musique de Vincent Scotto. Elle est enregistrée en 1934. La chanson parle des adieux à la ville de Martigues.
Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigalons et cigales, dans les grands pins, chantez toujours, barques aux douces couleurs, collines rousses de fleurs, au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours. Cher petit village au bord de la mer, je te laisse en gage tout ce qui m'est cher. L'éternel été d'un ciel enchanté où j'ai cru vivre un jour tous mes rêves. Pays que j'aimais, je dois désormais loin de toi m'en aller à jamais. Adieu Venise provençale, adieu pays de mes amours, adieu cigalons et cigales, dans les grands pères, chantez toujours, par barques aux douces couleurs, collines rousses de fleurs. Au loin je pars, je vous laisse mon cœur. Adieu, bonne île provençale, adieu, pays de mes amours. La fillette brune qui m'avait souvent, au clair de la lune, fait de beaux serments. Dans sa jolie main a brisé soudain mes espoirs et toute ma tendresse. C'est pourquoi je veux oublier ses yeux et quitter, cher pays, ton ciel bleu. Adieu, Venise provençale, adieu, pays de mes amours. Adieu, cigalons et cigales, dans les grands pays, chantez toujours. Adieu, Venise provençale, adieu, pays.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.
En 1980, Georges Brassens enregistre Adieu Venise provençale. Cette version reste inédite jusqu'en 2001, année où elle paraît sur l'album posthume Georges Brassens inédit. De son vrai nom René Crescenzo, René Serville est un parolier et acteur français né le 18 janvier 1901 à Toulon et décédé le 31 mars 1975 à Marseille. Fils d'un immigré italien, René Crescenzo passe son enfance à Marseille, lieu de ses débuts amateurs dès l'âge de 15 ans, puis monte à Paris en 1930 où il fait carrière. Il y rencontre d'abord l'humoriste Pierre Dac, dont il écrira les sketchs pour son spectacle au cabaret de la Lune Rousse, puis l'acteur Alibert, qui lui propose de créer ensemble une revue marseillaise, et enfin le compositeur Vincent Scotto, avec qui la collaboration durera de nombreuses années et produira d'innombrables succès. La chanson « La Canebière » et « Un de la Canebière », etc. La famille de sa mère, d'origine génoise, est installée depuis le début du XIXe siècle dans les vieux quartiers de Marseille, rue Torte, avant de retourner à la Ciotat. Cette filiation lui transmet une parfaite connaissance du monde des marins et des pêcheurs dont il s'est fait le chroniqueur au second degré. Il connaît bien le parler marseillais et comprend le provençal que parle une de ses grands-mères. Sa femme, Juliette Saint-Ginier, petite fille d'un capoulet dit tambourinéré félibréen du Var, ami de Mistral, né en 1830 et décédé en 1914, lui apporte en dot l'autre partie de ce qui constituera l'ossature de leur parfaite maîtrise de la culture de la Provence littorale. Toutes ces influences contribuent à donner un caractère traditionnel à ce qui va devenir les opérettes marseillaises. Parolier, auteur d'un millier de chansons sur 50 années de carrière, il écrit pour les plus grands de l'époque. Félix Mayol, Maurice Chevalier, Fernandel, Tino Rossi, Édith Piaf, Marie Dubas, Reda Kerr. Il excelle dans de nombreux domaines. Chansonnier sous contrat à la Lune Rousse, de 1930 à 1936, il écrit tous les spectacles et les revues pour son complice Pierre Dac. Végétant, il n'en joue pas moins les utilités et le Marseillais de service auprès des touristes rue de Clichy lorsque Alibert vient le chercher pour écrire la revue marseillaise. Cette initiative installe définitivement le genre marseillais dans la capitale. Puis, avec Vincent Scotto, il crée ce qui restera la synthèse de la longue tradition de spectacle marseillais. Mais il n'abandonne pas Marseille, où il est, dans les années 40, l'auteur de plusieurs revues produites et coécrite par Émile Audifray et jouée à l'Odéon et à l'Alcazar. Il produit les 7 livrets et toutes les paroles des chansons de ce corpus qui entrera dans le patrimoine de la cité phocéenne, les opérettes marseillaises. Il est le co-auteur de la majorité des revues qui se jouent à Marseille entre 1939 et 1944 à l'Odéon de la Canebière, actuellement en théâtre municipal de l'Odéon, avec Odie Frey, Raymond Vinci et Géo Cogé, Alibert, entre autres. Ainsi que celle qui clôture le cycle de l'Alcazar du cours Belzunce de 51 à 1965, avant qu'il ne prenne en 1968 une retraite bien méritée aux Arcs-sur-Argent dans le Var. En 1952, Marcel Pagnol lui donnera un rôle dans son film Manon des Sources où il campe un gendarme qui se rêve président de tribunal. Modeste, malgré le succès de ses œuvres, un millier de textes de chansons en 50 ans de carrière, il est, selon son biographe et neveu Georges Crescenzo, en collaboration avec le journaliste Michel Allione, l'oublié de la Canebière. Son nom a été donné à une place en centre-ville, derrière ce qui fut l'entrée des artistes de l'ancien Alcazar, aujourd'hui adresse de la bibliothèque municipale de la ville de Marseille, la place René Sarville. Canebière est une chanson française écrite en 1935 par René Serville pour les paroles et Vincent Scotto pour la musique, créée par le chanteur Alibert dans l'opérette Un de la Canebière. La chanson célèbre l'avenue la plus fameuse du cœur de Marseille, la Canebière.
Quatre coins du monde, indiscutablement, on aime sa faconde et ses mille défauts charmants. Elle a la grâce brune des filles du midi, il n'en existe qu'une, voilà pourquoi chez nous l'on dit. On connaît dans chaque hémisphère notre Canebière, et partout elle est populaire, notre Canebière. Elle part du vieux port et sans effort, coquette de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre Canebière. Comment vous la décrire, son charme est sans pareil, joyeuse elle s'étire comme un lézard au soleil. Internationale, pour l'amour tronc de l'air, elle est la capitale des marins de l'univers. On connaît dans chaque hémisphère notre Canebière, et partout elle est populaire, notre Canebière. Elle parle et sans effort, coquine de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre Canebière.
Il est né le divin enfant, il est né sur la Canebière. Il est né le divin enfant, il est né près du Mont Saint-Jean.
Vincent Scotto, né le 21 avril 1874 à Marseille et mort le 15 novembre 1952 à Paris, est un compositeur français. Vincent Baptiste Scotto, de son nom complet, est le dernier-né de Pasquale Scotto Daniello et d'Antonia Intartaglia, originaire de l'île de Procida, située au nord du golfe de Naples. Il apprend la guitare à l'âge de 7 ans, puis étudie la musique dans une institution religieuse. Après avoir animé les noces et banquets de la région marseillaise en accompagnant les chanteurs à la guitare, il commence une carrière solo à Marseille en 1902. L'une de ses toutes premières compositions est adaptée par Henri Christinet pour devenir un succès du chanteur Paulin, la petite tonkinoise. Fort de cette réputation, il s'installe à Paris dans le faubourg Saint-Martin. C'est le début d'une production abondante comme J'ai deux amours, Prosper, Dioplaboum, Le trompette en bois, Marinella, Émile Audifray et Géo Cogé, créé par Tino Rossi, Le plus beau tango du monde, créé par Alibert, ou Sous les ponts de Paris, genre d'or, créé par Georgel. Vincent Scotto est le compositeur de 4000 chansons et de 60 opérettes, jouées, produites ou écrites, entre autres, par Christinet, Léo Lelièvre, Maurice Chaloub, Maurice Mareille, Jean Rodor, Géo Cogé, Émile Audifray, René Sarville, et interprétées par Alibert, son gendre, Paulette Merval, Marcel Merquès, Joséphine Becker, Jem Plana, Tino Rossi, Maurice Chevalier, Reda Kerr. Nombre de ses chansons ont été des succès internationaux, en Europe et aux États-Unis. La série de ses opérettes marseillaises sur des livrets de René Sarville et Alibert, notamment un de la Canebière, a beaucoup fait pour répandre à Paris, sinon dans le monde entier, une certaine image de Marseille et des méridionaux, parfois caricaturales. Sa popularité actuelle est aussi due aux nombreuses musiques qu'il a composées pour le cinéma. On dénombre plus de 200 films à son actif, dont ceux de son ami Marcel Pagnol. Ce dernier lui confia également le rôle-titre dans Geoffroy en 1933. Marcel Pagnol lui écrivit cet hommage. « Mon cher Vincent, quand tu partiras, tu laisseras 100 ou 200 chansons, des sentiments à toi, des idées à toi, qui feront encore du bien à des gens qui ne sont pas nés. » Plaque commémorative aux 11 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Vincent Scotto meurt à Paris à son domicile aux 11 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris, à l'âge de 78 ans, un an avant la création de son dernier ouvrage, Les Amants de Venise, au théâtre Mogador. Il repose au cimetière Saint-Pierre de Marseille. Tout naturellement, écrivit Pagnol, ses réussites 100 fois répétées avaient excité l'envie et la jalousie de compositeurs moins heureux, et l'on disait couramment qu'il faisait faire ses chansons par des nègres. Ce qui est regrettable, c'est que depuis la mort du cher petit Vincent, aucun de ces nègres ne s'est manifesté en nous donnant une seule chanson comparable au Pont de Paris ou à Venise Provençale ou encore J'ai deux amours. Nous sommes donc forcés d'en conclure que ces nègres sont morts avec lui le même jour et à la même heure. Son épouse Marguerite Monnier, née en 1879, est morte en 1962. Depuis 1948, un prix Vincent Scotto est décerné annuellement par la SACEM pour récompenser la meilleure chanson populaire qui s'est révélée dans l'année. L'un de ses cousins, Serge Scotto, adapte en bande dessinée depuis 2016 les œuvres de Marcel Pagnol.
Comment l'avez-vous connu, Vincent Scotto ?
Oh bien, je l'ai connu à Lyon, où j'étais en tournée avec Damien et Gilles et Julien, et il m'a encouragé dans mon métier, il a été très gentil. Et puis quand Henri Varna m'a engagé au Casino de Paris pour la revue Parade de France, j'ai été trouver Scotto. Et là, j'ai eu une sensation extraordinaire parce qu'il a attrapé sa guitare et il m'a dit « Je vois ce qu'il te faut ». Et il a commencé « Viens et viens et viens et viens ». Il a fait « Viens et viens et quoi ». Cette chanson qui a fait le tour du monde, enfin, que même les Américains ont chanté pendant des années, il l'a fait en 5 minutes.
Près de la grève, souvenez-vous des voix de rêve chantées pour nous. Minutes brèves du cher passé, pas encore effacées. Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui j'ai dansé dans vos bras.
Cette émission est maintenant terminée. À bientôt pour un nouveau périple en chanson à travers l'histoire.
Le temps d'une chanson. Un mardi par mois à 22h sur Radio Campus Paris.